À l'occasion de la sortie du guide de la dépendance signé Patrick Lelong de France Info, notre confrère et David Jacquet, nous allons jeter un regard sur l'état des lieux de maisons de retraite en France. Patrick Lelong, bonjour.
Bonjour Bernard.
Vous avez donc établi un classement des maisons de retraite dans ce guide qui parle évidemment des conditions de dépendance, mais selon quels critères un classement ?
Bien, on s'est posé plusieurs questions. La première, toute simple, c'est de savoir si on aurait envie de laisser son père ou sa mère dans un établissement pour y vivre schématiquement ces derniers jours. Donc, on a noté l'accueil, on a noté la vie dans la maison. Est-ce qu'il y a des activités culturelles, des activités d'éveil, ou est-ce que c'est simplement un endroit où on mange, il y a des soins, et puis on attend la fin de ses jours. Donc, critères qualitatifs, critères quantitatifs aussi, bien évidemment le prix. Il y a des établissements privés, il y a des établissements publics, il y a des établissements associatifs. On ne s'est rien interdit du tout. On a tout visité avec ce sentiment, cette volonté de vouloir tester en fait la maison de retraite.
Et qui sont les gagnants, les perdants entre public, privé, associatif, etc.
Alors la grande leçon, c'est qu'il n'y a pas de perdants et de gagnants en termes de secteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le secteur public soit moins bien que le secteur privé, réciproquement ou associatif. C'est plus compliqué que ça. À l'intérieur même du secteur privé ou du secteur associatif ou public, il y a de grandes disparités. Il y a des établissements qui sont à la traîne, qui ont besoin d'être rénovés, qui ne sont pas encore totalement aux normes, et puis d'autres qui sont parfaitement adaptés à la demande et donc à la vie des personnes du quatrième âge. Donc les gagnants et les perdants, c'est plutôt en termes d'établissement, chaque établissement étant noté, plutôt qu'en termes de secteur.
Et on retrouve ces établissements et le classement, en tout cas des meilleurs, dans Le Parisien aujourd'hui en France, qui s'associe à cette liste. Bonjour Serge Guérin.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement. Est-ce que c'est utile de dresser un tel tableau ?
Oui, c'est toujours utile. Alors, faut toujours se méfier des classements et autres, mais c'est déjà utile premièrement parce qu'on s'aperçoit que globalement, il y a 8000 maisons de retraite. Donc, c'est quand même la grande majorité des lieux. Deuxièmement, on voit que contrairement aux images qui sont souvent répandues, c'est pas partout des mouroirs, c'est pas partout la misère, c'est pas partout l'isolement. C'est globalement et très généralement des lieux, j'aime pas le terme maison de retraite parce qu'il marque déjà sur le côté. En fait, ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux où il existe toujours des choses, ce sont des lieux où jusqu'au dernier jour de sa vie, on peut avoir un projet, on reste un citoyen en quelque sorte. Et ça, ce qui est intéressant dans ce travail-là, c'est que c'est globalement mis en avant. Il y a, bien sûr qu'il y a l'aspect soins, mais il y a d'abord un aspect d'entourage, il y a d'abord un aspect de, non pas de prise en charge, mais au contraire d'accompagnement, de travail avec les personnes et de laisser à ces êtres humains, à ces personnes âgées, et dans le mot personne âgée, il y a bien personne, de continuer de vivre.
Il nous reste une petite dizaine de minutes. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Au 62030 sur votre téléphone portable, 62030, vous tapez le mot-clé info. C'est primordial, sinon le message ne m'arrive pas. Votre question, votre prénom et Serge Guérin et Patrick Lelong vous répondent. Serge Guérin, quel est le principal grief que l'on pourrait faire à ce type d'établissement ?
Alors, il y a deux types de griefs. D'abord, il y a sur les personnels. Non pas que les personnels soient mauvais, mais très souvent, ils sont insuffisants. Donc, on n'a pas mis assez de moyens, à la fois en termes de quantité et surtout, je dirais, entre guillemets, de qualité, c'est-à-dire de formation de ces personnes. Ce sont des métiers qui sont souvent des métiers précarisés, ce sont souvent des métiers qui sont mal payés et souvent des métiers où les gens ne sont pas assez formés. Donc là, il y a un vrai enjeu. Il y a aussi d'ailleurs un enjeu d'emploi, hein, parce que derrière, ce sont des centaines de milliers d'emplois qui sont possibles à développer dans notre pays. Des emplois sur place et des emplois de service. Donc là, il y a déjà un enjeu très fort. Deuxième élément, c'est de faire attention à ce que ces lieux restent dans la ville, restent dans la vie. Ne soient pas, parce que financièrement, c'est souvent plus facile de les mettre très très loin, sauf que plus on les met loin, moins le foncier est cher, mais moins aussi il est difficile à la fois d'aller les voir, et puis d'autre part, à ce que ces personnes-là restent dans la vie.
Ne pas désocialiser ces lieux. Quoi.
Absolument.
Ouais, troisième point.
Bien penser aussi qu'il y a l'aspect maison de retraite fortement médicalisée, mais souvent on pense, ou maintien à domicile, le terme est abominable d'ailleurs, parce que c'est comme si on maintenait les personnes sous l'eau, donc c'est soutenir les personnes si elles souhaitent vivre à domicile, ou bien vivre dans des lieux médicalisés. Mais il y a plein d'autres espaces. Par exemple, les foyers logements, par exemple, les résidences-services, par exemple, le fait de choisir à plusieurs son lieu d'hébergement. Donc attention, c'est pas l'un ou l'autre, c'est pas noir ou blanc, c'est souvent des dispositifs possibles. Et puis les maisons de retraite, ces lieux de vie deviennent aussi de plus en plus, ou devront devenir de plus en plus, des plateformes. C'est-à-dire, c'est des endroits pour des personnes qui souhaitent être, être aidées de cette façon-là, mais ça peut être aussi des plateformes pour les aidants, par exemple, pour les aidants bénévoles. Ça peut être aussi des plateformes pour des gens qui vivent chez elles, modèles, mais qui à certains moments ont besoin d'aller se socialiser, ont besoin d'aller se rassurer dans d'autres espaces.
On parle souvent de ces établissements quand il y a des cas de maltraitance. Est-ce que c'est marginal, généralisé, Patrick Long? Comment vous avez été accueilli dans les établissements quand vous avez cherché à mener l'enquête là-dessus?
Alors, on a été accueilli, étant bien entendu qu'on ne présentait pas, on se présentait pas comme journaliste, etc. On disait voilà, mon père, ma mère est dans une situation difficile. On a appris le vocabulaire de la perte d'autonomie comme tout le monde. Donc, tout ça a été extrêmement crédible. Et donc, on a été généralement très bien accueilli. Je dis bien généralement, il arrive que par moment, effectivement, dans certains endroits, l'accueil laisse à désirer. Et dans ce cas-là, bien évidemment, ça se ressent sur la note. Mais globalement, non, il y a un accueil qui est normal.
Serge Guérin, la maltraitance, c'est très fréquent?
Alors, deux choses. La première, c'est qu'on ne fait pas ce type de métier par hasard. On peut y arriver par hasard. Parce qu'il y a les gens qui restent dans ce secteur-là. Ce n'est pas un secteur facile. C'est un secteur où il y a, au-delà de la compétence, il y a un aspect d'émotion. Je pense que vous l'avez vu dans vos enquêtes. Donc, déjà, il y a cet aspect-là. Deuxièmement, il peut y avoir évidemment des cas de maltraitance, comme il y en a partout ailleurs. Soit pour des raisons, je dirais presque institutionnelles. C'est-à-dire quand il n'y a pas assez de moyens, au bout d'un moment, les gens, les personnes qui travaillent, elles ont du mal à tout faire. Parce que la notion de productivité dans les services, ou la notion de productivité vers ce type de personnes, c'est un peu n'importe quoi, on va pas faire manger les gens plus vite. Hein. Donc il y a ça d'un côté. Et puis il y a, parce que les êtres humains sont les êtres humains, il y a parfois, parce qu'on est en face de personnes extrêmement fragiles, donc il peut y avoir aussi une tentation. Mais je rappelle que plus de 50% des cas de maltraitance, en fin de compte, ils sont dans les familles. Sauf que ça se voit beaucoup moins dans les familles parce que c'est dispersé.
Donc vous nous dites, c'est pas fréquent quand même dans les maisons
de retraite. C'est pas si fréquent.
Voilà. Parce qu'on en parle évidemment.
C'est normal, on parle toujours quand les trains arrivent pas à l'heure.
C'est les dysfonctionnements. Quelques petites questions pratiques. Comment on choisit son établissement? Comment on est sûr de ne pas se tromper? Quels sont les critères à prendre? D'abord la distance, le coût, la qualité des soins?
Alors, je dirais que maintenant, on a un guide. Donc il faut peut-être utiliser le guide. C'est, je crois, en effet très important de se renseigner. Parfois se renseigner auprès des résidents eux-mêmes, il commence à y avoir aussi beaucoup d'informations sur ce type de choses. Hein. C'est plus, les résidents eux-mêmes sont des gens qui sont des actifs, des acteurs. Hein. Ils parlent, donc on peut aussi se renseigner auprès d'eux, aller se promener un petit peu, prendre le temps d'aller voir sur place, de façon un peu incognito, comme ça. Ça se sent très vite quand même si les gens sont à l'aise ou pas, si les gens sont bien ou pas. Voir s'il y a des activités. Est-ce que ces personnes-là, on leur permet, on les autorise, entre guillemets, on les accompagne pour sortir. Il y a tous ces éléments-là qui sont des éléments très, très, très qualitatifs. Puis après, il y a la question du prix, du ratio, je dirais, du personnel par rapport au nombre de résidents.
Patrick Lelong, oui. Quelques conseils, c'est quoi? Il faut choisir un endroit près de chez soi,
oui,
de bonne
bien
qualité,
évidemment,
pas
trop cher. Près des aidants, près des enfants, qu'ils puissent se rendre et pourquoi pas aussi passer la soirée. Ça existe, il y a des établissements qui accueillent aussi, parce que c'est toujours difficile, les maisons de retraite sont souvent en dehors des villes, hélas. Donc oui, ça c'est très important. Et puis bien évidemment, essayer de... Ce que veut la personne âgée, c'est rester la plus en forme, la plus vivante possible, et donc de ne pas l'isoler. Donc rester dans sa région, pourquoi pas la mettre avec ses amis aussi, tout ça est important, et donc faire en sorte qu'elle soit dans un milieu qui soit le plus, j'allais dire, humain et convenable.
Sur le coût, comment elle justifie les maisons de retraite, les coûts élevés?
Déjà par le coût du foncier, ensuite selon que vous êtes un établissement public ou un établissement privé, vous percevez des aides ou vous n'en percevez pas, et puis il y a tout le coût, toute l'infrastructure. Hein. Si on isole le médical, qui est quelque chose bien évidemment, mais je veux dire que le personnel, les dépenses d'infrastructure, tout cela a
l'hôtellerie,
un coût,
bien sûr. Serge Guérin, à propos des aides, il existe plusieurs types d'aides, aides personnalisées, aides fiscales.
Oui, alors première chose, cet argent, c'est pas de l'argent qui est mis pour rien. C'est de l'argent qui va dans le circuit économique. Quand dans un territoire, on crée une maison de retraite, finalement, peut-être que derrière, on va créer aussi une nouvelle classe dans une école. Parce que les gens qui vont venir travailler, ils ont leurs propres enfants, ainsi de suite. Donc ça participe complètement à la dynamique économique. Deuxième chose, en effet...
D'où l'importance d'être dans le lieu de vie, dans la ville. Hein, dans
si
le
possible,
village.
Absolument. Ouais. Ça fait vivre des territoires aussi et ça fait vivre tout le monde, je dirais. Il y a les personnes âgées, mais aussi d'autres personnes. Alors en termes de coûts, il y a l'APA, c'est plutôt les départements, qui finance 70%, donc il le finance en fonction, non pas des ressources de la personne, mais de la situation de la personne, de sa perte d'autonomie. Il peut y avoir dans certains cas, on maintient les APL, donc les aides personnalisées au logement, donc il y a un certain nombre d'aides qui viennent, mais c'est vrai qu'il reste pour les familles des sommes qui sont parfois importantes au regard, y compris de ce que peuvent parfois percevoir les personnes âgées à la retraite.
Et quand on n'a pas les moyens de payer un tel lieu pour ses parents, ses proches, etc., qu'est-ce qu'on fait? Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut conseiller?
Alors, il y a quand même des aides sociales, hein, heureusement, peut-être pas suffisantes, mais en tout cas, il y a des aides sociales. Un des problèmes, d'ailleurs, c'est que selon les départements et selon les moyens des départements, les aides ne sont pas les mêmes ou ne peuvent pas être les mêmes. Donc là, il y a un vrai souci. Voilà, ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est vrai qu'il y a des différences aussi entre les maisons de retraite à statut privé et les maisons de retraite publiques ou à statut associatif non lucratif, qui sont souvent moins chères ou beaucoup moins chères. Donc voilà, déjà, autour de ces deux éléments-là, on peut réduire un petit peu, mais c'est vrai que dans certains cas, c'est un vrai souci, c'est un vrai enjeu pour les personnes.
Merci Serge Guérin, sociologue, spécialiste des questions liées au vieillissement. L'un de vos derniers livres, La société des seniors, qui est paru chez Michelon, je crois. Hein, voilà. Et merci Patrick Lelon. On renvoie à ce guide de la dépendance que vous avez co-signé avec David Jacquet, coédition JTL et France Info, bien évidemment. Et on peut retrouver dans Le Parisien aujourd'hui en France un dossier complet sur les 25 maisons de retraite que vous avez classées au top de votre liste.
Hein. 10 sur 10, oui.
10 sur 10.